Bonjour. Deux gardiens de prison poignardés gravement par un détenu radicalisé dans la prison de Condé-sur-Sarthe, dans l'Orne. Leurs jours ne sont pas en danger. Le détenu condamné à 30 ans de prison s'est retranché avec sa compagne. Une nouvelle nuit de violence à Grenoble, trois jours après la mort dans un accident de scooter de deux jeunes gens de 17 et 19 ans, poursuivis par la police. Les familles appellent au calme. Défendre les valeurs et les frontières de l'Europe pour libérer et protéger. Emmanuel Macron lance sa campagne des européennes dans 28 journaux du vieux continent. En retrouvant les accents du candidat de droite et de gauche. Parmi ses propositions, une remise à plat des accords de Schengen pour mieux contrôler les frontières et unifier les politiques d'asile. Plus facile à dire qu'à faire, nous dira une professeure de droit européen.
Pour l'instant, il existe une structure, une agence Frontex, mais ses effectifs sont réduits, son budget est limité. Donc cette police des frontières, on imagine, serait dotée de moyens supplémentaires.
Plus surprenante, cette main tendue au Royaume-Uni qui doit pouvoir trouver sa place dans cette nouvelle Europe, explique aussi le chef de l'État qui a reçu un soutien de taille avec l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, auquel la tête de liste Les Républicains François-Xavier Bellamy demande de quitter le parti. Remettre la question sociale et environnementale au cœur de notre société, là c'est un appel de 18 organisations associées à la CFDT, dont les 66 propositions touchent au logement, à un meilleur partage des richesses, à la création de jurys citoyens, un pacte pour un pouvoir de vivre qu'a notamment signé la Fondation Abbé Pierre, dont le secrétaire général Christophe Robert sera notre invité. Dans ce journal également, la possible libération de Carlos Ghosn au Japon. Le juge accepte sa mise en liberté sous caution, mais le parquet de Tokyo a fait appel. Un nouveau progrès de la recherche sur le sida, un patient en rémission, le deuxième en 10 ans, c'est très peu, mais on avance, Daniel Messager.
Oui, un patient peut-être guéri, en tout cas en rémission durable après une greffe de cellules de moelle osseuse, une avancée pour la recherche, mais pas applicable à tous les séropositifs.
Ce sera votre chronique santé tout à l'heure. Et puis Le Nom de la Rose, c'était un film, c'est maintenant une série à voir ce soir sur OCS. Et c'est une réussite selon Jacqueline Pétrose. La météo, bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
Moins de vent aujourd'hui.
Oui, alors encore 50 à 70 km à l'heure au nord de la Loire, mais rien à voir avec hier. Des averses sur ces régions, pas mal de nuages entre Poitou-Charentes et la Franche-Comté. On a du soleil du sud-ouest aux Alpes et à la Méditerranée. À noter, toujours le vent sur la Corse, jusqu'à 100 km à l'heure, et pour les températures, 9 à 21 degrés.
Et le bulletin complet, bien sûr, en fin de journal. France Inter. Un détenu radicalisé qui s'est retranché avec sa compagne, c'est en ce moment même dans la prison de Condé-sur-Sarthe. Un détenu qui a agressé deux de ses gardiens, gravement blessé à coups de couteau. Le parquet antiterroriste a été saisi de l'enquête. Que sait-on précisément, Laurélie Carive ?
Qu'il est toujours retranché, ce détenu, dans l'unité familiale de la prison ultra sécurisée de Condé-sur-Sarthe, là où il recevait ce matin sa compagne. Il était 9h45, armé d'un couteau en céramique. L'homme a attaqué deux surveillants. Les deux ont été grièvement blessés, l'un au ventre, l'autre au visage. Ils ont été hospitalisés à Alençon, mais leur pronostic vital n'est pas engagé. Le détenu en question a 28 ans. Il purge actuellement une peine de 30 ans de réclusion pour avoir séquestré, torturé et tué un ancien cheminot rescapé des camps nazis. C'était à Montigny-lès-Metz, il y a 7 ans maintenant. Il a aussi été condamné à un an de prison pour apologie du terrorisme, pour avoir mimé avec d'autres détenu l'attaque du Bataclan dans la cour de la prison. Michael C. s'est converti à l'islam en 2010. D'après un syndicat pénitentiaire, il aurait crié à la Wakbar au moment de l'agression. Le RAID et les unités d'intervention de l'administration pénitentiaire ont été dépêchés sur place.
Le procureur Rémy est actuellement en route pour se rendre sur les lieux. Il fera un point presse tout à l'heure et nous y reviendrons bien sûr si la situation évolue avant la fin de ce journal. À propos de détenus radicalisés, les premiers et derniers mots de Mehdi Nemmouche à Bruxelles ce matin au procès de la tuerie du musée juif. C'était en mai 2014, 4 personnes assassinées. Le djihadiste français qui ne s'était pas encore exprimé a réaffirmé son innocence et dit juste avoir été piégé en ajoutant « si c'était à changer, je changerais tout ». Le verdict est mis en délibéré. À Grenoble, c'est une nouvelle nuit très difficile qu'ont vécu les habitants du quartier Mistral. Pour la troisième fois depuis samedi, des échauffourées ont opposé les forces de l'ordre à des jeunes de ce quartier. D'où venaient les deux jeunes gens de 17 et 19 ans qui se sont tués dans un accident de scooter alors qu'ils étaient pris en chasse par un véhicule de la BAC. Ils roulaient sans casque sur un scooter volé et dépourvu de plaques, ce qui ne justifie pas cette fin tragique pour les jeunes du quartier et pour la famille qui, tout en dénonçant la pression policière, appelle au calme. Christophe Vincent s'est rendu sur place.
Sur un parking proche du stade de football, trois voitures calcinées témoignent de la violence des émeutes. Hier soir, le père d'une victime est allé voir les jeunes pour leur délivrer ce message.
J'aimerais bien les jeunes rester calmes. Il y a la justice. Laisse la justice faire son travail. Et merci à tout le monde. Merci.
Pas sûr que la colère retombe, car ici, la plupart des jeunes, comme cette lycéenne, imputent cette fin tragique à la police.
On a tous vu ce qui s'est passé. J'ai vu la voiture des policiers et le scooter, ils étaient prêts. Hein. Sinon, ils sont jamais morts à cette heure-ci. Et je suis en colère, parce que la police, elle a jamais tort. Du coup, c'est lourd.
Des habitants défendent la police ou s'inquiètent du climat actuel, comme cet agent de nettoyage.
J'ai trouvé des gros conteneurs verts brûlés à même le sol. Donc les plastiques étaient collés sur le bitume. Chaque fois que ça déraille quelque part, qu'il y a un problème avec les jeunes, ça engendre des violences. Mais des violences qui sont de plus en plus extrêmes, hein, avec des émeutes, des gens qui n'y sont pour rien, qui se retrouvent dans des situations compliquées et difficiles. Et ces gens-là, ben, sont totalement impuissants. Ils ne comprennent pas surtout ça, c'est qu'ils ne comprennent pas pourquoi il y a ces violences-là.
Une boulangère ajoute, il y a deux versions qui s'opposent. Ce sera dur de connaître la vérité. Grenoble, Christophe Vincent, France Inter.
Dans les violences de samedi, un garçon de 16 ans avait été blessé à l'œil, possiblement par un flashball. Une enquête pour violence volontaire avec arme a été ouverte. La famille annonce son intention de porter plainte. Au bilan de la nuit, 65 voitures incendiées. Une caserne de CRS et une voiture de pompiers prises pour cible. Un homme de 25 ans interpellé pour jet de projectiles. La liberté, la protection, le progrès sur deux pages dans 28 journaux européens, dont le Parisien aujourd'hui en France. Emmanuel Macron a donc lancé officiellement sa campagne pour l'élection du 26 mai, qu'il juge décisive pour une renaissance européenne. C'est le titre de cette tribune dans laquelle il réaffirme ses convictions européennes en avançant quelques propositions dont certaines étaient déjà connues. Le problème pour Emmanuel Macron, ce n'est pas l'union mais le mensonge et l'irresponsabilité de ceux qui veulent la détruire. Et c'est aussi de l'autre côté ceux qui ne veulent rien changer, car l'Europe, écrit le chef de l'État, ce n'est pas qu'un marché, c'est un projet. Ce sont à la fois des valeurs et des frontières. Bref, c'est la droite et c'est la gauche. Laurence Perron, le candidat du En Même Temps, fait son retour.
Oui, un retour à la stratégie qui a fait les beaux jours de la Macronie en 2017. Une vision au-dessus des partis, le clivage progressiste contre obscurantiste, nationaliste et eurosceptique est adouci. Emmanuel Macron n'y revient pas, assurant même entendre la colère des peuples. À la gauche, qu'il accuse de sacrifier des sur l'autel du libéralisme, il répond « Banque européenne du climat », faisant sienne la proposition du climatologue Jean Jouzel. Il propose un bouclier social, un salaire minimum européen adapté à chaque pays, parle de la nécessité de se protéger face aux offensives commerciales chinoises ou américaines. Mais c'est la droite, en réalité, qui l'entend le plus déstabiliser. Sa proposition d'une remise à plat des accords de Schengen, la volonté de contenir les frontières est directement inspirée de Nicolas Sarkozy. Et elle tombe à pic. À l'heure où La République En Marche cherche un point d'atterrissage au Parlement européen, le président de la République vise une alliance avec le PPE, le parti de la droite européenne, qui est d'ailleurs en train de faire le ménage en son sein, voire la procédure d'exclusion du parti du Hongrois Viktor Orban. La renaissance européenne pour Emmanuel Macron ressemble singulièrement au dynamitage des clivages de 2017. Mais là où la présidentielle a surtout atomisé le PS, là ce sont les terres de la droite qui sont chassées, braconnées, diront même les amis de Laurent Wauquiez.
Eh bien justement, ce discours volontariste qui cherche à respecter les équilibres a déjà réussi son coup, puisqu'il a effectivement arraché le soutien officiel ce matin, sans surprise, du mouvement Agir, représenté par le ministre de la Culture, Franck Riester, mais surtout le soutien de l'ancien Premier ministre LR, Jean-Pierre Raffarin, qui le dit au Figaro, il soutiendra la liste République En Marche sans aucune hésitation. C'est pour lui non pas un engagement de politique intérieure, mais une réponse à la menace de déconstruction qui pèse sur l'Union. Un engagement que ne comprend pas forcément la tête de liste Les Républicains, François-Xavier Bellamy. Il était ce matin l'invité de France Inter.
J'ai du mal à comprendre que Jean-Pierre Raffarin dise que Emmanuel Macron a le meilleur projet européen dans la mesure où tous les projets n'ont pas été dévoilés. Le nôtre en particulier le sera de façon complète à l'occasion du Conseil national qui va venir dans quelques jours. Donc Jean-Pierre Raffarin, c'est bien dommage, se prononce, me semble-t-il, un peu tôt. Sur le fond, en revanche, et je crois que la clarification était nécessaire, Jean-Pierre Raffarin partageait déjà des réunions stratégiques avec le président de la République il y a quelques semaines de cela sur le projet européen. Que les choses soient affichées clairement, vous savez, c'est ce qui me paraît nécessaire. Moi, je n'ai jamais eu la moindre réprobation morale envers quelqu'un qui n'a pas les mêmes convictions que moi. Ce qui compte, en revanche, c'est d'offrir aux Français un choix qui soit vraiment clair
et transparent. Il doit quitter le parti désormais, selon vous ?
Écoutez, il faut aller au bout de sa démarche. S'il considère que La République En Marche est ce dans quoi se trouve son aspiration politique, il me semblerait normal qu'il rejoigne La République En Marche.
François-Xavier Bellamy, ce matin avec Nicolas Demorand. Parmi les propositions du président de la République, il y a donc cette idée de protection des frontières. La frontière pour Emmanuel Macron, c'est la liberté en sécurité. D'où son idée de remettre Schengen à plat pour mieux assurer le contrôle des frontières et appliquer partout la même politique d'asile. Plus facile à dire qu'à faire, comme l'explique Gaëlle Marty, professeur de droit européen à Lyon 3.
La première proposition, c'est la mise en place d'une police des frontières communes. Pour l'instant, il existe une structure, une agence Frontex, qui a pour but déjà d'aider les États à sécuriser leurs frontières, contrôler l'immigration illégale, mais ses effectifs sont réduits, son budget est limité. Donc, cette police des frontières, on imagine, serait dotée de moyens supplémentaires. Ça implique de nouveaux transferts de compétences à l'Union européenne, et donc certainement une révision des traités européens, ce qui suppose l'accord de tous les États membres. C'est loin d'être certain dans le contexte actuel, où on a des États qui sont très eurosceptiques. Le deuxième point de son discours, c'est de renforcer la solidarité entre les États en harmonisant davantage les politiques d'asile. À l'heure actuelle, un demandeur d'asile n'a pas du tout les mêmes chances de succès de sa demande selon qu'il la dépose en Grèce, en France ou en Hongrie. Donc ça peut être une partie de la solution. Le problème qui subsiste, c'est le manque de solidarité entre les États. Ce sont les pays de première arrivée des migrants, donc l'Italie, la Grèce, qui concentrent toute la responsabilité de la gestion des flux migratoires. Pour ceci, il n'y a pas véritablement de solution proposée dans le discours d'Emmanuel Macron.
Des propos recueillis par Audrey Tison. Réviser Schengen et pousser encore l'idée d'une Europe de la défense, dans laquelle le Royaume-Uni aurait son rôle à jouer. C'est aussi ce qui frappe dans cette tribune présidentielle, la façon dont Emmanuel Macron ménage nos voisins anglais, en jugeant qu'à l'aune des réformes qu'il propose, ils trouveraient leur place dans cette nouvelle Europe. Alors savoir ce qu'ils en pensent eux-mêmes. Antoine Gignot, vous nous appelez de Londres.
Absolument, et pour les Britanniques, à 24 jours du Brexit, à un moment où les députés pensent de plus en plus à demander un report, une sortie plus tardive, ce texte d'Emmanuel Macron présente l'Union européenne sous un jour séduisant. Le président français propose d'augmenter les dépenses militaires. Il veut créer un conseil de sécurité européen avec la participation des Britanniques. Il veut lutter contre la cybercriminalité, le financement des partis politiques par des puissances étrangères. Des sujets qui font directement écho ici à l'affaire Cambridge Analytica et au rôle joué par la Russie pendant la campagne sur le Brexit. Une déclaration conciliante, commente ce matin le Télégraphe, une main tendue au-dessus de la Manche est saisi par Jeremy Hunt, le ministre des Affaires étrangères vient de le dire. Personne au gouvernement ne veut d'une sortie de l'Union européenne sans aucun accord. Pas sûr en revanche que ces promesses d'une Europe qui change suffisent à apaiser la colère des Brexiteurs durs. Malgré le plaidoyer pour le contrôle des frontières, la gestion globale des demandes d'asile dont vous parliez, le Daily Mail lui évoque une manœuvre électorale d'Emmanuel Macron destinée à sortir de la crise des Gilets jaunes.
Antoine Gignot à Londres. Parmi les réaction de la matinée, également Nicolas Dupont-Aignan, le président de Debout la France, qui accuse Emmanuel Macron de mentir, car il promet le contraire de ses actes. Les mesures qu'il propose encourageront la submersion migratoire, souligne Nicolas Dupont-Aignan. Boris Vallot, le porte-parole du PS, explique qu'il ne suffit pas d'emprunter des mots aux progressistes pour être progressiste, que les actes du président Macron sont à rebours de ses belles paroles. Ce que pense aussi Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, qui salue une vision positive de ce qu'il faudrait faire, mais s'interroge sur les deux Macron, l'européen plutôt ouvert sur les droits sociaux et le président plutôt fermé sur ces questions-là au niveau national. Laurent Berger, qui a lancé ce matin, en compagnie de 18 autres organisations et associations, un pacte du pouvoir de vivre, 66 propositions pour changer de modèle de développement, remettre la question sociale et écologique au cœur de notre modèle de société. Parmi les signataires, la Fondation Hulot et la Fondation Abbé Pierre, dont le délégué général Christophe Robert est en ligne avec nous. Bonjour Christophe Robert.
Bonjour.
Alors cette tribune d'Emmanuel Macron, notamment sous son angle social et environnemental, vous convient-elle ?
Écoutez, on voit revenir un certain nombre de sujets qui étaient ceux du candidat Macron à l'époque, au moment de l'élection présidentielle, autour de la protection, protégée. La question aussi environnementale et la transition écologique est à nouveau sur le métier. Il faut par contre effectivement s'interroger, je partage un certain nombre de retours qu'il y a pu y avoir depuis ce matin, sur comment nous sommes exemplaires ou pas sur ces sujets-là. Et c'est vrai que dans le pacte que nous proposons aujourd'hui avec 19 organisations, on propose des politiques qui vont vers plus de justice sociale, plus de justice fiscale et qui permettent d'enclencher une véritable transition écologique digne de ce nom qui ne s'opposerait pas à la question du social. Et c'est là sans doute la complexité, mais en même temps c'est incontournable pour pouvoir permettre une acceptation de la société et une transformation durable que nous appelons de nos voeux.
On a vu pourtant la difficulté avec la mise en place d'une taxe carbone.
Oui, mais précisément, c'est un échec qui doit nous interroger tous. Vous augmentez la fiscalité pour des personnes qui sont déjà, pour beaucoup, fragiles, qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois. Si on dit que la fiscalité écologique permet d'aider ceux qui sont en difficulté ou d'investir, plutôt et d'investir dans les énergies renouvelables, dans la rénovation thermique des logements, dans les chèques énergie pour aider ceux qui n'arrivent pas à se chauffer par exemple, c'est une toute autre histoire, comme l'ont fait d'autres pays. Or là, écoutez, ça augmente, et effectivement, on voit émerger le ras-le-bol fiscal, et c'est aussi ça, de façon un peu globale que l'on défend dans ce pacte social et écologique, c'est de dire tout se tient dans cette histoire-là. On ne peut pas simplement prendre des mesures ici, en mettre là, sans expliquer, sans aider, sans redistribuer, sans faire du partage social, fiscal et une action véritablement environnementale.
Alors justement, Christophe Robert, parmi vos 66 propositions, qu'on pourra retrouver d'ailleurs en détail sur franceinter.fr, mais là, quelques-unes parmi les plus importantes, l'encadrement des loyers en zone tendue, par exemple, un investissement massif dans le logement social, là, c'est votre dada, hein, le logement, enfin, c'est votre raison
d'être.
Oui,
mais c'est le sujet qui a été mis en premier par les 19 organisations, parce que elles ont en tête que tout le monde a besoin d'un logement et que aujourd'hui le logement est ce qui nous permet de vivre convenablement pour pouvoir avoir un emploi, pour pouvoir se reposer. Ça a un impact sur la santé, sur la scolarisation des enfants. Et c'est pour ça que ce sujet du logement est dans les premières propositions de ce pacte. Donc effectivement, je prends un autre exemple sur la transition écologique. Si on investit massivement dans la rénovation des logements, la rénovation thermique des logements, d'un côté, on fait baisser la facture des ménages parce que le coût du logement baisse, qui est le premier poste de dépense des ménages. De l'autre côté, on préserve la planète parce qu'on ne chauffe pas l'extérieur avec des passoires thermiques, mais on économise la planète et on crée des dizaines de milliers d'emplois sur nos territoires et donc le développement économique qui l'accompagne. C'est toutes ces dimensions intégrées qu'il faut pouvoir proposer, mettre en œuvre pour pouvoir enclencher cette réforme profonde que nous appelons de nos voeux et nous appelons aussi à signer d'autres organisations ou la mobilisation des citoyens autour de ce pacte.
Bien entendu, rien ne se fera sans la société civile, c'est le message que vous voulez faire passer, vos 66 propositions donc à revoir sur franceinter.fr. Merci Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé Pierre. Carlos Ghosn peut être libre dans la soirée, peut-être. Le tribunal du district de Tokyo a accepté la demande de libération sous caution de l'ex-patron de Renault-Nissan. C'est une première victoire pour ses nouveaux avocats, même si le parquet ayant fait appel, la décision reste en suspens. La cour devrait trancher dans la journée. Frédéric Charles à Tokyo.
Le pouvoir des procureurs au Japon est aussi redoutable que celui des procureurs en Chine, ou presque. Au sein du ministère de la Justice, ils dominent la hiérarchie. Leurs nominations aux plus hautes fonctions sont reconnues symboliquement par l'empereur, ce qui n'est pas le cas pour les autres mandarins de la justice japonaise. Les juges les contredisent rarement, ce qui explique pourquoi 99% des personnes inculpées sont condamnées. Les procureurs pratiquent la justice de l'otage. Tant que vous n'avouez pas, vous restez en prison. Ils peuvent arrêter Carlos Ghosn sous de nouveaux chefs d'accusation. D'où ces critiques en France à propos du système judiciaire japonais, qualifié de cruel et de moyenâgeux. Ces critiques n'ont pas influencé la décision du tribunal de Tokyo de libérer sous caution Carlos Ghosn. Son nouvel avocat a su trouver de meilleurs arguments que le précédent. Carlos Ghosn, dit-on, a des difficultés à réunir le montant de sa caution, plus de 8 millions d'euros. Sauf erreur, elle doit être versée dans son intégralité. Et si sa libération est confirmée, elle n'interviendra pas avant demain. Tokyo, Frédéric Charles, RFI pour France Inter.
20 millions pour le site de Ford à Blanquefort en Gironde. Bercy confirme la somme que devra verser le constructeur américain qui fermera donc son usine l'été prochain. Le plan de sauvegarde de l'emploi a été validé. C'est carton plein sur ce qu'on demandait. C'est félicité ce matin Bruno Le Maire. La CGT de l'entreprise annonce au contraire son intention de contester ce plan devant le tribunal administratif. On parlait des frontières européennes tout à l'heure. C'est la frontière française que voudraient défendre les 7 départements de l'Île-de-France. Département dirigé par la droite. ou le Parti communiste, ils se disent tous candidats à entrer au capital d'ADP, les aéroports de Paris que le gouvernement a prévu de privatiser en partie. Ils proposent de racheter 30% des 50,5% de parts que doit céder l'État, lequel ne conserverait pas plus de 5%. Le groupe ADP dit n'être pas au courant, Fabien Cazot.
Devenir actionnaire d'Aéroports de Paris à hauteur de près de 30%, comme l'envisagent les départements d'Île-de-France, ça a d'abord un coût. 3 milliards d'euros aux conditions actuelles du marché. L'investissement n'entraînerait pas de hausse d'impôts, s'empresse de préciser les collectivités. D'autant qu'il y aurait des retours sur investissement. Les départements, en tant qu'actionnaires, seraient associés aux bénéfices d'ADP via des dividendes. Autant de ressources qui permettraient de financer en retour les travaux du Grand Paris Express, dont la facture ne cesse de gonfler. D'un point de vue plus politique, gauche et droite qui dirigent ces départements se retrouvent sur un point. La souveraineté sur les aéroports est un enjeu majeur. Orly et surtout Roissy, représentant la première frontière en trafic de voyageurs pour la France. Les Hollandais ont voulu garder le contrôle sur leur aéroport d'Amsterdam Schiphol via leur montée au capital d'Air France KLM. Pourquoi la France ne le ferait-elle pas via ses départements, argumente-t-il, après avoir longuement ferraillé au Sénat le mois dernier contre la vente d'aéroports de Paris à des intérêts privés.
Le Sénat qui a rejeté ce projet de privatisation qui doit être maintenant débattu à l'Assemblée.
France Inter, le journal de 13h. Yves Decan.
La chronique santé du mardi, rebonjour Daniel Messager.
Bonjour Yves.
On le disait en titre, un deuxième cas mondial de rémission d'un patient atteint du VIH vient d'être révélé.
Oui, lors d'une conférence internationale aux États-Unis. Alors on le présente comme le patient de Londres, c'est l'université de Cambridge qui en fait état. Ce patient, tout comme le premier qu'on présentait comme le patient de Berlin, avait une caractéristique particulière. En plus d'être séropositif, il était atteint d'une leucémie. Pour le guérir de sa leucémie, les médecins ont donc envisagé une greffe de cellules de moelle osseuse, mais cette greffe a été réalisée avec des cellules qui sont naturellement résistantes au VIH parce qu'en fait elles ont une mutation génétique.
Et donc ce patient, comme le précédent, vit maintenant avec ces cellules résistantes.
Tout à fait, celles du donneur, ce qui fait que chez ce patient, le virus ne peut pas se multiplier. Alors pour autant, il s'agit d'une transplantation, donc d'une intervention lourde, avec des cellules que l'on ne trouve que chez moins d'1% de la population blanche, plus de la chimiothérapie, donc pas applicable à tous les séropositifs. Michaela Müller-Trutwin est chercheuse à l'Institut Pasteur et à l'Agence nationale de recherche sur le sida.
Ce n'est pas une thérapie envisageable pour les patients infectés par le VIH pour deux raisons. D'une part, on ne peut pas envisager une greffe qui est quand même quelque chose de très dangereux pour un patient qui, avec le traitement, va bien et qui n'a pas de leucémie. Et deuxièmement, il y a déjà eu des cas où on a essayé de reproduire le cas de Berlin et qui n'ont pas abouti à une guérison. Donc on ne peut pas généraliser ce cas.
Pour autant, c'est une avancée très intéressante en termes de recherche, car depuis 10 ans, on n'avait jamais réussi à reproduire de cette façon une rémission chez un patient.
Et c'est pour ça qu'on... Pardon.
On a maintenant déjà deux patients, deux cas de guérison. On pourra comprendre, en fait, comparer les deux patients pour mieux cibler, en fait, les mécanismes qui seraient à l'origine de cette guérison. Il faut être prudent aussi, c'est très important. Là, c'est un cas qui est guéri depuis 19 mois, mais il y a déjà eu des cas comparables où le patient n'avait pas de virus détectable dans le sang pendant 9 mois, et après, le virus est quand même réapparu. C'est pas sûr qu'il y a peut-être des cellules infectées ailleurs dans le corps pour l'instant.
Voilà, et c'est pour ça, c'est ce que je voulais vous dire, Daniel, hein, qu'on ne parle pas encore de guérison.
Oui, c'est vrai qu'on utilise plutôt le terme de rémission chez ce patient, parce que pour l'instant, aucun test ne permet de détecter de présence de virus dans son organisme. Le patient berlinois, le premier cas, lui, est considéré comme guéri parce qu'on a un recul de 10 ans. Alors reste encore à la recherche à progresser pour comprendre tous les mécanismes de ces actions. Donc impossible, dans l'état actuel des connaissances, d'utiliser ces techniques très spécifiques à plus large échelle.
Daniel Messager, j'ajoute à ce chapitre santé cet appel de l'établissement français du sang, appel urgent au don. Et pour savoir où donner, il faut se rendre sur dondesang.efs.santé.fr. Des mannequins debout et silencieuses juste avant de défiler, c'était au Grand Palais ce matin, la présentation de la toute dernière collection Chanel, dessinée par Karl Lagerfeld, décédé il y a 2 semaines. Un défilé précédé d'une minute de silence en hommage à celui qui fut le directeur artistique de la maison de couture pendant 36 ans, Delphine Evenou.
Seuls les initiés ont droit d'entrée, pour les autres, c'est bout de trottoir.
We're here at the Chanel Fashion Week.
The last collection from Karl Lagerfeld.
Adam, lycéen allemand looké, smartphone dans la main.
We checked Instagram and they already built the runway.
Il nous explique qu'il suit le défilé sur Instagram, scène façon station de ski, neige et chalet. Au bout de 20 minutes, Anna Wintour, la papesse américaine de la mode, sort la première sans un mot. Delphine et Fiona, journalistes françaises, sont plus bavardes.
C'était magnifique, c'était émouvant, il y avait plein de personnes en larmes qui devaient le connaître, on imagine, d'autres qui ne le connaissaient pas et qui pleuraient quand même. Penélope Cruz défilait, était là, c'était émouvant et très très beau.
Pareil, hein, moment unique, moment hyper émouvant, super casting, les tenues magnifiques. Hyper Chanel.
Veste en tweed, couleur bleu-blanc-rouge, Anton, styliste, confirme.
Very emotional, very emotional.
Super, super émouvant, parce qu'avant le show, il y a eu la voix de Karl, et puis la collection a commencé, et ensuite il y a eu une standing ovation, c'était vraiment bien.
Quant au style de cette dernière collection,
c'était une palette de couleurs sombres, marron, noir, blanc, très Chanel, avec des pièces fuchsia ou rouge.
Virginie Viard, qui succède au Kaiser, a un lourd poids sur ses épaules.
Le grand palais dont Lagerfeld était tombé amoureux, une longue histoire d'amour à retrouver en photo sur franceinter.fr. Allez, on avait aimé Le Nom de la Rose, le film, on aimera la série en 8 épisodes dont la diffusion commence ce soir sur la chaîne OCS. Le film de Jean-Jacques Hano, Sean Connery en vedette, avait connu un succès mondial. Cette série produite par la RAI avec John Turturro était très attendue et ouf, c'est une réussite, Jacqueline Petro.
I was 17 years old at the time and my life was about to change forever.
Italie 1327. Le moine franciscain Guillaume de Baskerville et son jeune novice Azzo font route vers une abbaye bénédictine du nord du pays. Guillaume fait partie de la délégation de l'empereur de Bavière et doit servir de négociateur avec les émissaires du pape pour arbitrer l'épineuse question sur la pauvreté du Christ et donc de l'Église. Mais à l'abbaye, plusieurs moines sont assassinés et Guillaume, doté de capacités de déduction exceptionnelles, va mener l'enquête, lui-même poursuivi par l'inquisiteur Bernard Dogui. Le réalisateur Giacomo Battiato a su retranscrire toutes les dimensions du roman d'Umberto Eco, qui n'est pas qu'un thriller. On retrouve dans chaque épisode la dimension philosophique et politique sur la condition des pauvres, des femmes, sur l'amour, sur le fanatisme religieux et sur le pouvoir. John Turturro est un Baskerville mystérieux, attachant, extrêmement convaincant.
When I was a philosopher, I doubted the world had an order.
On a le temps de voir s'installer les personnages dans une ambiance crépusculaire, angoissante. Le défi est relevé avec panache. Cette série à laquelle Umberto Eco a eu le temps de contribuer avant sa mort est absolument captivante.
Voilà, Le Nom de la Rose, ce soir sur OCS. En rappelant l'information de la matinée, un détenu radicalisé retranché avec sa compagne dans la prison de Condé-sur-Sarthe après avoir poignardé deux de ses gardiens dont les jours ne sont pas en danger. Le parquet antiterroriste est saisi de l'enquête. Le temps.
La météo, avec Préfonds, la retraite et la prévoyance de la fonction publique. Les jeunes fonctionnaires font le bon calcul sur préfonds-retraite.fr.
Élodie Galac, c'est plus calme aujourd'hui.
Sur la moitié nord, on a encore du vent, des rafales jusqu'à 50 à 70 km à l'heure. Pas mal de nuages aussi sur ces régions, parfois une averse. Des averses plus nombreuses sur le Grand Est, sous forme de neige dès 900 mètres sur les Vosges. Entre les Charentes, le Sud-Ouest, le Massif Central, Rhône-Alpes et la Méditerranée, là c'est mieux, le soleil l'emporte largement. Le vent est soutenu sur les Pyrénées, il est fort sur le nord de la Corse jusqu'à 100 km à l'heure, plus sur les Caps et en montagne. Les températures sont douces pour la saison, 9 degrés à Nancy, 12 à Lille, Paris, Caen, 14 à Vannes et à Bourges, 17 degrés à Toulouse, Montélimar, 18 à Bordeaux et à Nice et 21 degrés à Biarritz. Demain, de la pluie au menu, du vent aussi, il sera très fort sur les Pyrénées.